I don't know why my people cry in South Africa. Georgia say, I don't know why my people cry in America.
Radio de la Paix, il est 7 heures. Le journal du 7 heures, Emmanuel Amani.
7 heures partout en Côte d'Ivoire à la une de ce journal. Formation de 259 élèves et étudiants par le ministère de la Jeunesse et l'Agence Emploi Jeune de Bouna, une initiative qui a pour objectif de lutter contre les facteurs de vulnérabilité des jeunes du Nord face à l'extrémisme violent et l'orpaillage clandestin dans la région du Bounkani. À l'international, nous nous intéressons au discours du président de la République du Burundi à la tribune de la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. Aussi dans ce journal, la revue des titres des journaux ivoiriens avec Jean-Claude Comé. Enfin, la rubrique « L'invité de la rédaction » donnera la parole au FPI, Front Populaire Ivoirien, sur la question des sénatoriales du 16 septembre 2023. Kwaku Kra, vice-président du FPI chargé des questions électorales, répondra aux questions de Soro Adams. Bienvenue sur Radio de la Paix. Nous ouvrons ce journal avec le contentieux des élections locales du 2 septembre 2023. 71 requêtes en contestation pour les conseillers municipaux et 13 pour les conseillers régionaux ont été déposées devant le Conseil d'État. Pour la première journée d'audience, hier jeudi 21 septembre, sur 15 requêtes traitées, seule celle de la commune d'Aféry a été renvoyée à l'audience du 28 septembre pour suite de l'instruction. Les 14 autres ont été rejetées. Le secteur minier en 2022 a généré plus de 2200 milliards de chiffres d'affaires dont 24% sont allés directement dans les caisses publiques. C'est ce qu'a déclaré Christine Logo-Cassi, présidente du groupement des entreprises minières en Côte d'Ivoire, évoquant l'impact des minerais dans l'économie ivoirienne. C'était à l'occasion de la fin de l'atelier régional sur les minerais stratégiques de l'Afrique qui se tenait à Abidjan ce mercredi 20 septembre 2023. Les propos de Christine Logo-Cassi, rapportés par Ben Diakité.
En 2022, le secteur a produit un chiffre d'affaires brut de près de 2200 milliards de francs CFA, dont 24% ont été reversés dans les caisses de l'État et un peu moins de 10%, donc à peu près 2,5 milliards dans les communautés. Le secteur aujourd'hui embauche directement 18 500 personnes. La majorité des sociétés minières installées en Côte d'Ivoire sont des multinationales, pour la plupart toutes cotées en bourse. Donc naturellement, elles sont signées à tête des conventions internationales en matière de protection de l'environnement, en matière de préservation de la biodiversité, en matière d'engagement en vue de réduire les nuisances sonores de l'air, de l'eau et de la forestation. Au niveau national, nous avons développé, en consolidant les pratiques des entreprises minières, un plan de fermeture type de mine. La loi le consacre, mais n'avait pas développé tout un plan que les gens peuvent suivre pour fermer ou réhabiliter. Chacun y allait de son côté. Aujourd'hui, à minima, nous avons ce qu'on appelle un guide de réhabilitation et de fermeture des sites en fonction de la qualité de sol, en fonction de l'eau ou les eaux ou les cours d'eau environnants et en fonction des espèces végétales qui ont été détruites du fait de l'exploitation minière.
Nous poursuivons notre journal dans la région du Bounkani où le ministère de la Jeunesse en lien avec l'agence emploi jeune de Bouna a formé au cours des vacances scolaires 2023 259 élèves et étudiants à travers des stages d'immersion dans des structures publiques et privées de la région. Ce projet s'inscrit dans le programme social du gouvernement dans sa lutte contre les facteurs de vulnérabilité des jeunes du Nord face à l'extrémisme violent et l'orpaillage clandestin. On en sait un peu plus avec Jérôme Kouassi, notre correspondant dans le Bounkani.
Le but de ces stages d'immersion, Diaba Donatien est le chef de l'agence emploi jeune de Bouna.
Des stages de mois pour occuper sainement les jeunes élèves et étudiants de la classe de seconde jusqu'au master 2. Nous avons les stagiaires à Téni, nous avons également les stagiaires à Doropo, à Nassien et même à Bouna.
La satisfaction de Douo Joseph, directeur exécutif de l'ONG L'Étoile du Bounkani, qui a reçu aussi des stagiaires.
Toujours présents, ils n'ont jamais rechigné à la tâche et ils ont essayé d'apprendre déjà sur le terrain, c'est qu'on doit faire dans la vie active.
Le jeune d'Africanté à la cérémonie de remise d'attestation de fin de stage à l'ONG L'Étoile, ce que cette immersion leur a apporté.
De toucher de plus près les utilisations d'une administration et apporter notre disponibilité à l'organisation des ateliers et des campagnes de sensibilisation sur la paix et la cohésion pacifique.
Une mère de bénéficiaires. Pour elle, cela évite les déviations.
Ces jeunes ne pourront pas être visités par les bandes armées ni s'intéresser à leur paillage.
La disponibilité de cette ONG Étoile du Bunkani qui adhère à ce projet par la voix de son chargé de projet, Daoulo Toussaint.
Marquer notre disponibilité à continuer la collaboration avec l'agence emploi jeune dans la recherche de solutions pour aider les jeunes à pouvoir être plus responsables et apporter leur contribution au développement local.
Un stage d'immersion consiste à mettre en situation d'emploi des jeunes scolarisés dans divers services pendant les vacances en vue de les occuper sainement en les préparant au monde réel du travail. Jérôme Kwasi Kru, Bouna, Radio de la Paix.
80 chercheurs issus des pays de l'Afrique de l'Ouest ont pris part du 9 au 21 septembre à un séminaire sur le changement climatique et la biodiversité à Abidjan en vue du renforcement de leurs capacités et faire face aux défis liés à cette problématique. Les échos de cette conférence avec Zeynab Diomandé.
À l'initiative de l'école doctorale Wascal ou le Centre scientifique d'Afrique de l'Ouest sur le changement climatique et l'utilisation adaptée des terres et de l'AICRA, accélérer les impacts de la CJA sur l'Afrique, Alcalde Seignon, responsable scientifique du programme AICRA, donne les attentes de ce séminaire.
C'est que dès qu'ils vont rentrer, ils vont pouvoir intégrer ces modules de formation-là dans les cours qu'ils font aux universités pour qu'à terme, on puisse avoir une nouvelle génération d'experts qui soient formés sur les innovations AIC. Cette nouvelle génération d'experts doit avoir des compétences, des expertises pour pouvoir mettre en œuvre ces innovations-là quand ils seront dans leurs entreprises ou dans leurs fermes ou bien les institutions.
Il revient sur l'urgence de la question climatique en Afrique de l'Ouest.
Ça a des impacts sur les moyens de subsistance, sur comment nous fonctionnons, comment les producteurs travaillent, leurs activités communes. Si vous prenez par exemple le dernier rapport du GIEC, ce rapport a démontré que le climat a changé. Ce changement est dû aux activités anthropiques. Et ce rapport aussi a montré que les impacts sont vraiment catastrophiques. Et il est important qu'on puisse agir pour pouvoir préparer aussi bien les individus, mais également les institutions à répondre à ces nouveaux défis que pose le changement climatique.
Notons que le troisième jour a été consacré à une phase pratique dans la ville d'Azaguié.
Un mot de santé dans ce journal, lutte contre la poliomyélite. Une campagne de vaccination se déroulera du 22 au 25 septembre 2023. Le lancement aura lieu à Alépé dans la région de Lamé. Tous les enfants de 0 à 5 ans sont ciblés. Pourquoi cette autre campagne alors que la Côte d'Ivoire est libre de ce virus? Quelles sont les zones concernées? Élément de réponse avec le professeur Ekra Kwadio-Daniel, directeur coordonnateur du programme élargi de vaccination au ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle.
Cette campagne qui va avoir lieu dans les 113 districts sanitaires du pays cible les enfants de 0 à 5 ans. Même si l'enfant a une vaccination complète, nous recommandons que l'enfant puisse avoir une dose de ce vaccin. La Côte d'Ivoire est un pays libre de poliomyélite. L'Afrique même a été déclarée indemne de poliomyélite depuis 2020. Mais il s'agit de poliomyélite due au virus sauvage. Mais souvenez-vous qu'il y a des années, on ne comptait plus des milliers de cas sur l'ensemble de l'Afrique et dans le monde entier. Et avec les vaccinations, les différentes campagnes que nous avons effectuées, on a réduit de façon considérable ces nombres de cas. Au point où aujourd'hui, les cas de poliomyélite dus au virus sauvage n'existent pratiquement plus. Mais le vaccin qui a été utilisé pour lutter contre la poliomyélite est un vaccin qui utilise du virus vivant, mais donc qui peut être réactivé dans certaines conditions, surtout quand les enfants ne sont pas très bien vaccinés. Et donc, on peut avoir une réactivation de ce vaccin et entraîner quelques cas de poliomyélite due au virus vaccinal. Nous avons eu deux cas dans la zone de Bouna et c'est à ce virus vaccinal-là que nous sommes en train de faire face avec un autre type de vaccin, lui qui permet donc de barrer la route à ce nouveau virus et protéger tous nos enfants.
Professeur Ekra Kwadio-Daniel, directeur coordonnateur du programme élargi de vaccination au ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, dans des propos recueillis par Marthe Kakou. Or Hors de la Côte d'Ivoire, nous partons à New York où se tient la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Les chefs d'État et représentants de délégations des pays se sont succédés encore ce jeudi à la tribune. Au nombre de ceux-ci, le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, qui dénonce le traitement réservé aux candidats à l'immigration.
Sur l'intensification du phénomène migratoire, nous sommes tous conscients de son ampleur ainsi que des menaces de paix et de sécurité qui en résultent. En effet, ce mouvement qui inquiète les pays riches est la conséquence de la pauvreté, car ces migrants, en quête d'une vie meilleure, quittent les zones démunies pour aller gagner la vie dans les zones plus nanties. La réduction du phénomène migratoire passera nécessairement par l'adoption de mesures appropriées et concertées permettant aux jeunes d'améliorer leur chance de trouver des opportunités de travail décent, d'emploi indépendant ou d'entrepreneuriat, notamment à travers la mise en place des programmes visant à atteindre les objectifs de développement durable à l'échelle nationale. Nous sommes interpellés à concentrer nos efforts pour un partenariat mondial qui vise la lutte contre la pauvreté sous toutes ses formes. Toutefois, dans l'attente d'une solution durable, les pays de transit et de destination devraient comprendre et réserver une assistance digne et humaine aux migrants et leur garantir la jouissance de leurs droits humains fondamentaux. Mon pays est toujours contre la discrimination, l'instrumentalisation des droits humains et leur traitement par deux poids et deux mesures. Nous condamnons les États qui, sous prétexte de protection des droits de l'homme, en font pour s'ingérer dans les affaires intérieures des États.
Le moment est venu dans cette édition de parcourir les titres des journaux ivoiriens avec Jean-Claude Comé. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Mel Emmanuel, bonjour à tous. C'est un rapport attribué à la CAF, la Confédération africaine de football, et qui parle du stade olympique Alassane Ouattara des Bempe. Et le contenu de ce rapport fait l'objet de commentaires des confrères de la presse écrite. La Nouvelle Alliance estime que par ce rapport, la CAF confond les autorités ivoiriennes. Supersport, dans un français trivial et bien connu par les Ivoiriens, écrit que la CAF met à nu certaines incohérences. La CAF révèle tout le scandale, renchérit le sursaut. Le Temps prévient que la Confédération africaine de football met la Côte d'Ivoire en garde après l'inondation du stade Alassane Ouattara. Pour le Nouveau Réveil, la CAF met à nu le scandale et les fautifs. Centré dans cette polémique, l'Inter et le quotidien d'Abidjan indique que ce que révèle le rapport désespère de la CAF. Pour l'avenir, il faut voir le côté positif de la chose, puisque les compétitions, en tout cas, se tiendront en Côte d'Ivoire, notamment la CAN, la Coupe africaine des Nations 2023, est bel et bien maintenue en Côte d'Ivoire, se réjouit ce journal, malgré ses remarques de la CAF. Au-delà du sport, il est aussi question de contentieux de certains résultats des élections du 2 septembre dernier, des présidents donc de conseils régionaux et de maires. L'Inter et Fraternité Matin l'annonce, les premières décisions du Conseil d'État sont tombées hier. Le Nouveau Réveil, au-delà de l'audience d'hier, jeudi 21 septembre, donne une idée du calendrier des différentes délibérations du Conseil d'État sur la requête qu'il a reçue, et ce calendrier va jusqu'au 10 octobre prochain. Commentant déjà les premiers résultats de ce contentieux, Dernière Heure Monde estime que le Conseil d'État est dans les pas de la CEI, la Commission électorale indépendante, et comme s'il lui reprochait une certaine léthargie, La Voix originale affiche ce titre, ouvrez les guillemets, le Conseil d'État se réveille enfin, fermez les guillemets. Hors de Côte d'Ivoire, Fraternité Matin rencontre du séjour à New York du vice-président ivoirien, Siémoko Meilekone, qui est à la tribune de l'ONU hier, a présenté la vision du président Ouattara sur des thématiques comme la paix, le terrorisme, les changements climatiques et bien d'autres sujets. Agenda 2023 sur le développement durable, le plaidoyer du vice-président Meilekone à la tribune des Nations Unies écrit l'Inter. Et c'est un fait parce qu'il est vite maîtrisé et passé presque inaperçu, mais selon le confrère l'Inter, on a frôlé la catastrophe, en tout cas l'incendie survenu à la CIE, Société Ivoirienne de Raffinerie, on a frôlé donc la catastrophe, mais rassure le Temps, l'incendie a été vite maîtrisé. Merci à vous.
Merci à vous Jean-Claude Comé, vous serez avec nous à 8h pour le même exercice. Le regard des chapelles politiques sur l'élection des sénateurs du samedi 16 septembre 2023 se poursuit sur Radio de la Paix. Après le RHDP et le PDCI-RDA, le plateau de l'invité de la rédaction reçoit aujourd'hui le FPI, Front Populaire Ivoirien, en la personne de Kwaku Kra. Il est le vice-président du FPI, chargé des questions électorales, et il répond aux questions de Soro Adams.
Bonjour, monsieur le vice-président Kwaku Kra.
Bonjour, Soro Adams.
Au terme des élections sénatoriales qui viennent de se dérouler en Côte d'Ivoire, que dites-vous de l'organisation de ces élections? Que dites-vous de la prestation de votre parti, le Front Populaire Ivoirien?
Dans la forme, nous pouvons dire que les élections se sont bien tenues. Le Front Populaire Ivoirien a participé la plupart à ces élections qui se sont déroulées le 16 septembre 2023. Mais les résultats n'ont pas été bons.
Et qu'est-ce que vous obtenez au terme de ce scrutin?
Ce que nous avons pu obtenir, c'est l'affichage, parce que le jeu était déjà coupé à partir des résultats des élections locales. L'électorat des sénateurs est fondé sur les grands électeurs, c'est-à-dire les conseillers municipaux et les conseillers régionaux. À ce niveau, nous avons fait moisson maigre, ce qui n'a pas permis donc de pouvoir soutenir vaillamment des candidats afin de pouvoir triompher le 16 septembre 2023. Nous avions eu 3 candidats dans 3 régions. La région du district d'Abidjan, la région du Moreno et la région du Démo, où l'élection ne s'est pas tenue. Et nous n'avons pas pu remporter un siège. Donc la quasi-totalité des sénateurs ont été élus par le RHDP.
Et comment réagissez-vous?
Parce que dans l'ensemble, le scrutin s'est bien déroulé dans la forme. Mais au niveau du fond, c'est un déséquilibre. Au sommet de l'État, l'exécutif, nous avons la quasi-totalité des membres du RHDP. À l'Assemblée nationale, nous avons la quasi-totalité des membres du RHDP. Et puis, au Sénat, nous avons la quasi-totalité des membres du RHDP. Ça voudrait bien dire que la démocratie est biaisée. Et je pense qu'à ce niveau, des réflexions vont être menées pour voir comment on peut équilibrer le jeu de sorte qu'il n'y ait pas l'hégémonie, surtout du parti au pouvoir sur les autres partis politiques.
Des réflexions seront menées, mais à quel niveau et avec qui?
Dans un premier temps, au sein des organisations politiques, avec la société civile et avec le gouvernement. Et à la fin de ce processus, il faut engager un dialogue politique pour essayer de faire le bilan de la tenue de toutes les élections que nous avons eues depuis 2020, pour voir quelles sont les imperfections, quelles sont les irrégularités, qu'est-ce qu'il faut corriger, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Et je pense que le gouvernement devra être sensible à une telle convocation.
C'est une proposition de votre parti, le FPI?
Oui, c'est une proposition. C'est une proposition. Nous proposons que le gouvernement, à l'issue de ces élections générales, un dialogue politique soit convoqué afin de réfléchir sur les différentes règles qui ont permis donc de constituer ces institutions.
Alors, vous dites que la démocratie, avec la suprématie du parti au pouvoir à tous les niveaux, la démocratie serait biaisée. Ça voudrait dire quoi?
La démocratie, c'est le jeu de l'équilibre entre l'opposition et le parti au pouvoir. Parce que l'opposition a pour vocation de contrôler l'action du parti au pouvoir. Et si donc cette opposition n'existe que de nom, vous convenez que le contrôle va s'exercer difficilement et les abus, certainement, s'il y en a, ne pourront pas être corrigés, ne pourront pas être dénoncés. C'est pour cela qu'il faut un jeu équilibré. De sorte que dans les institutions, surtout au niveau du Parlement, que les choses soient équilibrées, de sorte que l'opposition puisse avoir une voix prépondérante au niveau du Parlement pour exercer de plein droit son rôle de contrôle sur l'exécutif.
Et dans l'attente de la réponse qui vous sera donnée à cette proposition, que dites-vous à vos militants du FPI?
ben, nous leur demandons de se remobiliser, aller sur le terrain, se donner les chances de réveiller nos structures et faire en sorte que les prochaines listes électorales nous soient favorables.
Mais votre parti, le FPI, aura-t-il un candidat à l'élection présidentielle de 2025?
Un parti, normalement, a pour vocation d'avoir un candidat. Dans ces conditions, je peux dire oui, mais notre parti, il y a beaucoup de conditions à remplir. Et comme nous n'avons pas encore évalué ces conditions, nous ne pouvons pas aujourd'hui affirmer qu'on va avoir un candidat.
Je vous remercie, monsieur le vice-président Kwaku Kra.
Merci, Soura Adams.
Kwaku Kra, vice-président du FPI chargé des questions électorales, répondait aux questions de Soro Adams. Ceci marque la fin du journal. Voici le rappel des titres. Formation de 259 élèves et étudiants par le ministère de la Jeunesse et l'Agence Emploi Jeune de Bouna, une initiative qui a pour objectif de lutter contre les facteurs de vulnérabilité des jeunes du Nord face à l'extrémisme violent et l'orpaillage clandestin dans la région du Bounkani. Et puis à l'international, nous nous sommes intéressés au discours du président de la République du Burundi à la tribune de la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. Prochain rendez-vous de l'information à 8h.